Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de l'arrivée des franco-protestants dans le Nouveau Monde. La diffusion de ce jour fait partie d'une série de 6 émissions consacrées à l'histoire des franco-protestants en Amérique du Nord. Vous écoutez présentement la 2e émission de cette série. Pour vous mettre dans le contexte, je vais introduire l'émission par des extraits d'un récit historique rédigé par Michel Barbeau et par la suite, je compléterai le tout par des citations du livre de Riel Duclos intitulé « L'histoire du protestantisme français au Canada et aux États-Unis ». Débutons par les extraits de M. Barbeau. Chaque arrivée de régiment en Nouvelle-France apportait quelques huguenots. Comme le port le plus important de commerce avec la Nouvelle-France était La Rochelle, il n'est pas surprenant de retrouver des marchands parmi les huguenots. Plusieurs étaient des commis des compagnies de La Rochelle. Certains n'ont fait que passer que quelques années ici. La plupart des huguenots, suite aux mesures de répression du clergé, tentaient de se faire oublier. Ils n'allaient surtout pas avouer leur origine religieuse en France et se contentaient de donner le nom de la paroisse catholique de leur lieu d'origine en France. Des recherches dans les registres d'état civil des temples protestants en France permettraient probablement d'en identifier un bon nombre. Le clergé du Québec, dès 1632, demande que l'on arrête de laisser passer des huguenots en Nouvelle-France. Dès 1659, on assiste aux premières abjurations. Monseigneur Laval finit par obtenir un règlement du Conseil souverain stipulant que les protestants n'ont pas le droit de s'assembler pour l'exercice de leur religion. On tolérera la présence en été des marchands et de leurs commis, mais ils devront demander une permission pour hiverner. Cette permission leur sera accordée à condition qu'ils vivent comme des catholiques et sans causer scandale. Malgré les récriminations du clergé, les autorités civiles et militaires de la Nouvelle-France se montreront tolérantes et ne filtreront pas l'entrée des huguenots dans la colonie. L'arrivée de protestants dans la colonie fut constante à part quelques années suivant la révocation de l'édit de Nantes. En 1741, leur présence s'avère suffisamment importante pour que le clergé se plaigne par 3 fois au Conseil de la Marine en France. Une autre preuve d'une présence permanente des protestants en Nouvelle-France est le journal d'un soldat britannique qui notait en 1759 qu'après la crise de Québec, que des protestants français avaient assisté à un service protestant. En France, les protestants durent souffrir de maintes persécutions, dragonnades, condamnations aux galères, emprisonnement, défense d'exercer des charges publiques, etc. Et mesdames et messieurs, selon Wikipédia, une dragonnade ou des dragonnades sont des persécutions qui ont été dirigées par Louis XIV contre la communauté protestante, mais contre les communautés protestantes de toutes les régions de la France pour l'exercice de leur culte. Je retourne au texte de M. Barbeau. On peut se poser la question s'il en fut de même ici. Il ne semble pas que des mesures aussi extrêmes furent prises. Outre les abjurations obtenues souvent par la pression, on se contentait de faire poser des actes du culte catholique aux protestants. La confirmation en est un exemple. Mais c'est ça, mesdames et messieurs, c'est que, vous savez, chez les catholiques, on va procéder à la première communion et un peu plus tard à la confirmation. Et donc, les autorités catholiques ont imposé aux protestants d'intégrer, si on veut, ces rituels-là, ces rites, dans leur démarche de foi. Je poursuis. De toute façon, les protestants devaient se marier à l'Église catholique puisqu'il ne semble pas y avoir eu de lieu de culte protestant. Certains écrits nous laissent cependant croire qu'un petit nombre de protestants furent enterrés dans les champs, car on leur refusait la sépulture en terre bénie. Il y aurait eu quelques cas de poursuites criminelles, la plupart pour avoir travaillé le dimanche ou un jour de fête religieuse. Un seul cas où il y eut condamnation à mort est peut-être relié à la religion du condamné. Il s'agit de Daniel Voile qui, en 1660, fut accusé de sorcellerie, de blasphème et de profanation des sacrements. Daniel Voile était un huguenot. Ici, j'aimerais amener un commentaire. Souvent, ce qui arrivait, c'est que les catholiques percevaient les protestants comme des profanes. parce qu'ils n'exerçaient pas les mêmes styles de sacrement ou le même style de rituel, et parce que les protestants étaient des gens qui pouvaient prier d'une manière spontanée. Ce n'étaient pas des prières, et encore aujourd'hui, les évangéliques, les franco-protestants évangéliques, vont, pour la plupart du temps, vont réciter des prières de cœur qui sont spontanées, qui sont sous l'inspiration. Et souvent, lorsque des franco-protestants voient des gens de leur entourage qui sont malades, ils vont prier pour eux. Ils vont s'attendre à une guérison divine. Ça n'exclut pas qu'on doit présenter un malade à un médecin ou à du personnel professionnel. Mais tout en consultant des médecins, et là, en Nouvelle-France, il n'y en avait pas légion de médecins à cette époque-là, en 1660. Alors, les gens priaient, faute de moyens. Et souvent, parce qu'il y avait des guérisons divines ou des expériences comme ça, ben, on associait ça à la sorcellerie. Et donc, Daniel Voile en est possiblement un exemple. Et je poursuis. Daniel Voile était un huguenot. Il y eut cependant des exclusions de l'exercice de certaines professions. Il était interdit aux protestants d'exercer les professions de médecin, d'apothicaire, de sage-femme, de contrôleur, de notaire, de juge et de brigadier. La plupart des huguenots s'assimilèrent à la religion catholique et dès la deuxième génération, on voit des enfants entrer en religion. Malgré cette assimilation, une certaine façon de vivre et de penser a peut-être traversé les générations. Certains endroits comme Champlain, Batiscan et Bécancour furent des lieux où plusieurs huguenots s'établirent. Ont-ils tenté de se regrouper? C'est la question que M. Barbeau se pose. Maintenant, c'est intéressant parce que la réponse vient de M. Rieul Duclos qui a écrit le livre que je vous ai cité tout à l'heure, « L'histoire du protestantisme français au Canada et aux États-Unis ». Allons voir ce que M. Duclos a à nous dire sur justement l'établissement des protestants, des franco-protestants en Amérique du Nord. Et ce qui est intéressant, mesdames et messieurs, dans cet ouvrage, c'est que ce livre débute avec une réflexion qui, moi, m'a marqué. Oui, si on lit la préface de Charles Bellière, qui a écrit quelques pages avant le début du livre, il nous fait remarquer un point extrêmement pertinent. Il va mentionner ceci à la page 3 de sa préface. « Tout étranger qui visite l'Empire des bois et des blés, pour ne pas parler des neiges et des frimas, ne peut manquer d'être frappé du dualisme qui partout s'y manifeste. » Écoutez bien le vocabulaire qu'il utilise. « Deux races, deux langues, deux religions. » Deux races qui ne se mélangent point, et si bien que presque à coup sûr, en regardant un visage, vous pouvez vous écrier « Voici un Canadien », par conséquent un catholique, ou « Voici un Anglais qui ne peut être que protestant ». Mais toute règle a ses exceptions. Les Irlandais, quoique de langue anglaise, sont catholiques et forment un groupe influent. D'autre part, il y a quelques milliers de franco-canadiens protestants. À l'époque, lorsqu'on parlait des Canadiens, on faisait surtout référence aux Canadiens français, aux francophones. Mais il mentionne un aspect. Notre histoire, l'histoire du Canada, est marquée par le dualisme. Il va parler de deux races, deux langues, deux religions. Donc, les anglophones et les francophones, ceux du Haut et du Bas-Canada, les catholiques et les protestants. Les franco-protestants viennent brouiller les cartes parce que la perception, même encore aujourd'hui, lorsqu'on parle des protestants, on fait souvent référence aux anglophones. Mais il y a toujours eu, et il y aura toujours, des franco-protestants au sein de la population. Certes, les franco-protestants ont toujours été en minorité, mais ils sont présents, ils sont actifs, ils sont vaillants. Maintenant, comme je vous disais, comme je vous faisais remarquer, le vocabulaire est très pertinent parce qu'il démontre qu'il y a une tension entre ces deux groupes-là. Lesquels? Les francophones et les anglophones. Mais aussi entre les catholiques et les protestants. Et donc, mesdames et messieurs, comme je vous le disais, l'histoire de notre pays est marquée par le dualisme. Dualisme qui vient de duel, deux. deux oppositions. Mais avez-vous remarqué qu'au Canada, juste sur le plan politique, dès qu'il y a un troisième parti en lice, ça vient tout brouiller les cartes. On est habitué au bipartisme. On est habitué où est-ce que les rouges contre les bleus. On est habitué à ce qu'il y ait un combat entre le bien et le mal. Le dualisme, comment je pourrais vous dire ça, le dualiste a marqué notre histoire. Mais je vais continuer. Il y a tellement de choses à dire et tellement de propos succulents dans ce livre. Mais maintenant, je vais entrer dans ce que M. Duclos a à nous dire. Il va nous dire à la page 3 du livre, et ça nous dit, « L'étude historique qui porte sur la toute première occupation du Canada pourrait paraître au lecteur mal informé comme une sorte de hors-d'œuvre qu'on aurait pu supprimer. En fait, j'ai été tenté moi-même d'en alléger mon manuscrit. Je ne l'ai conservé que parce que je me suis souvenu qu'on reprochait aux Canadiens protestants français d'être des étrangers dans leur propre patrie. Et j'ai cru qu'il était bon qu'ils sachent que les premiers Français qui s'établirent au Canada étaient leurs ancêtres spirituels. » Il était déterminé. Le pasteur Duclos voulait signaler à la population que cette nouvelle France a été peuplée non par des étrangers, mais par des franco-protestants. Mais ce qui arrive, c'est qu'on leur faisait sentir qu'ils étaient des étrangers. Et c'est ça que lui, le pasteur Duclos, n'aimait pas. Et avec raison. Qui aime se faire sentir comme n'étant pas le bienvenu ici? C'est pourquoi là, on va entrer dans cette séquence qui se trouve entre 1600 et 1759, où est-ce qu'on parle des protestants français sous le régime français et tout ce qui se passe ici en Nouvelle-France durant cette époque qui est trouble. Et comme on l'a vu dans la première partie de cette série, ce qui se passe en France, ce n'est pas réjouissant. Mais on va voir également que ce qui se passe ici, ce n'est peut-être pas aussi pire, mais il y a malgré tout des tensions et il y a de l'opposition. Et ça va durer plusieurs décennies, pour ne pas dire quelques siècles. Il faut se mettre dans le contexte, parce que là, on débute en 1600. Il n'y a pas si longtemps que ça. Quelques décennies avant. Si on retourne au 24 août 1572, je le répète parce qu'il y a quand même plusieurs dates, mais ça, c'est un point de repère. En 1572, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy qui a été déclenché à Paris. C'est là qu'on se met à massacrer, à tuer, à repousser les protestants à cause de leur foi. Mais ce qui arrive, il y a un moment d'accalmie. La France va proclamer l'Édit de Nantes qui donne une certaine liberté, une certaine tolérance aux protestants. Mais quelques décennies plus tard, donc ça, l'Édit de Nantes a été promulgué en 1598, tout juste avant que le 17e siècle commence, mais va être révoqué en 1685 par Louis XIV. Dans un nouvel édit qui s'appelle l'Édit de Fontainebleau. Et là, les droits que les protestants s'étaient mérités, si on veut, ou avaient réussi à obtenir, eh bien, ils les ont perdus. Et suite à ça, c'est là que des protestants ont quitté pour se rendre un peu partout sur la planète, avec les moyens qu'ils disposaient. Et un certain nombre d'entre eux se sont dirigés vers le Nouveau Monde. Et c'est pour ça que Riol Duclos va poser cette question-là. À la page 9, il va dire « Y a-t-il un protestantisme français au Canada? » Voilà une question que peut se poser chaque étranger qui traverse le pays. Intéressant parce qu'il est fier de son identité, il est fier de qui il est fier de ses valeurs, de ses croyances. Mais ce qu'il va mentionner Duclos, c'est que le protestant, parce qu'il est né dans un univers combatif, va être vu comme un revendicateur. Le protestant à l'époque, pour beaucoup, ne se laisse pas abattre. Du moins ceux qui gardent leur identité. Et c'est pour ça qu'il va dire, « Pour tout homme indépendant, cette œuvre de revendication devient en même temps une œuvre patriotique, car partout où l'Évangile, débarrassé des entraves d'un clergé tyrannique, a pu pénétrer, il a préparé des hommes supérieurs et par là, augmenté la force morale du pays. L'Évangile, a dit Vinette, est une semence de liberté. C'est incroyable, hein? L'Évangile est une semence de liberté. Mais regardez bien le point. Il y a une tension entre les catholiques et les protestants qui était très forte à l'époque. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas que les protestants soient libres. Parce que dès qu'ils étaient libres, ils avaient un impact, ils avaient une influence. Et à cette époque-là, particulièrement, puis on va le voir un peu plus loin aussi, hein, plus en détail, les protestants étaient des gens qui voulaient se scolariser puis voulaient le meilleur pour leur enfant, être parmi les premiers. Il y avait un esprit de conquérant chez les protestants, combatif. Évidemment, ce n'est pas 100% des protestants, mais c'était leur marque de commerce. Ils étaient caractérisés ainsi. Et c'est pour ça, il va dire à la page 11, « J'ai dit, l'œuvre missionnaire protestante française au Canada est une œuvre de revendication. » Ça, mesdames et messieurs, ça donne le ton à cette histoire, à ce vécu qui s'est passé sur nos terres, mesdames et messieurs. Ce qui est intéressant également, c'est que les protestants, comme le mentionnait Duclos, sont des patriotes, ils sont patriotiques. Mais malgré qu'ils sont distincts des catholiques, ils sont fiers d'affirmer qu'ils sont francophones. Écoutez bien ce qui nous est dit à la page 12 et 13. « Depuis quelques années, les nationalistes ont prêté le concours de leur fanatisme politique aux affirmations risquées du clergé, et les candidats qui se présentent aux élections patronnées par ce parti ont inscrit dans leur programme cette trinité que ne soupçonnaient pas les conciles. Une langue, un pays et une religion. Toucher à l'un, c'est diminuer l'autre ou compromettre son existence. » Et ça, là, Duclos est en train de réagir au fait que, hey, un instant, une langue, un pays, une religion, là, si c'est ça, être identifié comme étant un Canadien français, eh bien, il y a une erreur ici. Parce que les franco-protestants font partie de cette patrie. Ils ont une langue, ils sont en train de bâtir un pays, mais ils ne font pas partie de cette religion dominante. Mais ils veulent faire leur place. Mais ce qu'on semble comprendre, c'est qu'on ne veut pas leur laisser de la place. Il poursuit. « Quand on nous dit « De quel droit venez-vous évangéliser notre peuple? » on pose fort mal la question, car présenter l'Évangile au peuple canadien, ce n'est pas lui offrir une nouveauté, ce qui ne serait pas un crime après tout, mais le ramener à ses origines religieuses, car les premiers colons qui s'établirent sur son sol étaient des protestants français. » Et là, Duclos veut ramener cette réalité, veut ramener cette vérité. Les premières personnes qui se sont établies sur le sol de la Nouvelle-France, c'était des protestants français. On va en reparler un peu plus tard. On en discute dans cette troisième partie que je vous présenterai demain. Pourquoi demain? Car c'est déjà le temps de clore cette émission. Si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est le blogueur à commercial ericlantier.net. C'est le blogueur à commercial ericlantier.net. Je vous invite également à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. N'oubliez pas que cette émission est disponible en tout temps sur le www.ericlantier.net. C'est le www.ericlantier.net. Merci d'avoir syntonisé, mesdames et messieurs, le 92,7 FM et je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. Le blogueur à commercial ericlantier.net. Le tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!